Ginette Kolinka, 97 ans, poursuit son tour de France pour raconter son histoire. Elle a été déportée alors qu'elle n'avait pas 20 ans. Elle a tenu une conférence au lycée Camille Schneider de Molsheim sur l'initiative de l'association Regard d'enfants. Ginette Kolinka commence sa conférence en faisant prendre conscience aux lycéens du côté arbitraire de la haine des Juifs.
Non, simplement, est-ce que j'ai l'air de quelqu'un, un zombie, un oiseau rare, un extraterrestre, est-ce qu'on a l'air de tout ça? Bon, donc ça veut dire qu'on a l'air normaux. Eh bien, moi je suis d'accord aussi, je me sens tout à fait normal. J'ai un nez, une bouche, comme tout le monde, eux aussi. Alors, ce petit jeune homme, c'est mon frère. Il avait 12 ans et demi. Ce petit jeune homme, c'est mon neveu. Il avait 14 ans et demi. Et puis moi, à l'époque, j'avais 19 ans. On est pour une personne. On n'est pas des gens normaux. On fait partie d'une catégorie qui le déteste. Il hait les Juifs et on est Juifs. Donc, il n'a qu'un rêve. C'est tuer tous les Juifs d'Europe. Eh bien, il va mettre son projet à exécution.
Et de raconter le début de la discrimination.
Alors, vous voyez, en Allemagne, ils se promenaient avec des panneaux sur le poitrail. Les magasins, et ça, en France, ça a existé aussi, les magasins devaient mettre sur la vitrine un panneau qui indiquait qu'ils étaient Juifs. À Paris, on allait dans les bureaux des commissariats de quartier. Sur nos cartes d'identité, on sortait avec ce beau tampon juif. Alors, vous auriez été comme moi à cette époque. Sur nos cartes d'identité, on nous a fait mettre un gros tampon juif. Alors, pour nous humilier, ils vont nous obliger à porter sur nos vêtements une étoile en tissu jaune bordée de noir. Et maintenant, tout le monde va voir que l'on est juif. C'est pas grave de montrer qu'on est juif. Personnellement, moi, ça ne m'a jamais humilié. Oui, je sais, je suis juive. Eh bien, tout le monde le voit, quelle importance. Non, l'important, c'est que du fait qu'on était juif, ils ont en même temps sorti des lois qui, par le fait, empêcher les Juifs de vivre. Je suis jeune à l'époque. Eh bien, moi qui aimais le sport, je n'ai plus le droit de mettre un pied dans un stade. Mes sœurs ne sont pas comme moi, elles sont moins sportives. Elles aiment bien le cinéma, elles aiment bien le dancing. Elles n'ont plus le droit d'aller ni au cinéma, ni au théâtre, ni au dancing. Tout ça, ça nous est interdit. Les Juifs n'ont plus le droit d'être en contact avec les non-juifs. Et ça, c'est grave. Ça veut dire que plein de métiers vont nous être interdits. Les médecins, les chirurgiens, les dentistes, les artistes, les commerçants, on n'a plus le droit d'exercer notre métier parce que quand on le faisait, on était en contact avec ceux qui ne l'étaient pas. En tous les cas, mon père a un petit atelier. Il fabrique des imperméables. Eh bien, il n'a plus le droit d'être dans son atelier parce qu'il a 3 ouvrières qui ne sont pas juives. Pour les étudiants, on avait le droit d'aller jusqu'au bac, mais les facultés nous étaient interdites. On a vécu comme ça, avec les interdits, jusqu'en 1942. En 1942, un monsieur vient nous voir et il nous montre ses papiers. Il travaille à la préfecture de police. Il a eu sur son bureau un dossier qui nous concernait. Vous êtes dénoncé parce que vous êtes communiste. Et les nazis avaient très, très peur des communistes. Parmi les communistes, il y avait beaucoup de résistants. Donc, résistant, ça veut dire sabotage. Ils avaient peur de leur propagande. Ça fait que quand ils pouvaient en arrêter, vous pensez bien qu'il ne se gênait pas. Il nous conseille d'aller en zone libre. Et ce tampon juif nous interdit de quitter le lieu où on s'est fait recenser. À la place, on va reprendre d'autres cartes d'identité. On va choisir des fausses identités. Mon nom de jeune fille, c'est Cherkaski. C'est pas breton, c'est pas auvergnat. En effet, c'est d'origine ukrainienne. On va faire des faux papiers, mais avec des noms de consonance bien française. On va trouver des gens qui vont nous fabriquer des faux papiers. Ma sœur aînée a des amis à Avignon. Elle leur avait demandé de nous trouver quelque chose. Ils nous ont trouvé quelque chose à côté d'Avignon, à Montfavet. Mon père est parti avec un petit peu d'argent, mais pas assez. On n'est pas en vacances. Il faut penser à travailler. On va se chercher du travail. J'ai deux sœurs qui font les marchés. On va vivre comme ça jusqu'en 1943. En 1943, la France est complètement occupée. C'est le 13 mars 1944. Je rentre. Il y a trois messieurs. Et ces messieurs, c'est même pas la peine que je demande qui ils sont. Manteau de cuir, chapeau de cuir, c'est la Gestapo. La Gestapo est là. Là, ils emmènent papa, Gilbert, mon neveu. Ils les font déculottés. Ils sont circoncis. Ça veut dire que celui qui nous a dénoncé avait raison. Ils nous poussent dans la première voiture. Alors maintenant, je suis avec papa, mon frère, mon neveu. Le traction avant, c'était le moyen de locomotion de la Gestapo. Ils vont nous déposer à la prison d'Avignon. On va y rester la nuit. On est dans la même cellule. Le lendemain matin, on va nous réveiller. Vous ne restez pas là. Vous partez en autobus pour Marseille, à la gare. Et de là, on va prendre un train qui va nous emmener à Paris. Un autobus est là. Il va nous emmener à Drancy. On est le 12 avril 1944. Demain matin, 6 heures du matin, vous êtes dans la cour de Drancy. Vous avez chacun droit d'emmener une couverture, vos bagages, si vous en avez. C'est le départ pour le camp de travail. Derrière la porte, il y a les autobus. Là maintenant, les Français, il n'y en a plus. On est aux mains de l'armée allemande. Ouhou, ben là, ça change. Des hurlements, des commandements, on ne marche pas assez vite. Et sur le quai de la gare, il y a un train. On va nous pousser, il faut faire vite. On va tous être dans les wagons. Les portes vont être verrouillées. On va s'installer, il y a un petit peu de paille par terre. On va tant bien que mal s'installer. On est combien dans les wagons ? 80, 75, 100, on ne sait pas exactement, mais on est beaucoup. Le train a démarré, quand on est rentré dans le wagon, un seau qui était là, on ne savait pas à quoi ça allait servir. Comme le train ne s'arrêtait pas, ce seau, on a compris, c'était pour se soulager. Et on a voyagé 3 jours, 3 nuits, je n'oublierai jamais Larry. Le train va s'arrêter, les portes vont être déverrouillées. Un air froid a pénétré dans le wagon et immédiatement cette odeur affreuse qui régnait dissipée. Alors un homme ou deux hommes sautent dans le wagon et nous poussent. On descend sans rien, on laisse tout dans le wagon. On nous répétait, ne vous inquiétez pas, vous trouverez toutes vos affaires dans le camp. J'entends. Venant du quai, des hurlements, des commandements. Moi, je ne parle pas un mot d'allemand. Les personnes qui sont malades, les personnes qui sont fatiguées, que c'est à cet endroit-là qu'était décidé où tu vis, où tu meurs. Jusqu'en mai 1944, les trains s'arrêtaient là et c'était là qu'il y avait la sélection. Les nazis voulaient bien laisser vivre les juifs qu'ils arrêtaient, à condition qu'ils puissent travailler. Là, vous voyez, on est descendu du train, et maintenant, il va y avoir le tri. Les uns vont être d'un côté, les femmes d'un côté, avec les enfants, et puis les hommes de l'autre. Le tri est fait, Il y avait aussi des camions qui étaient là et ils nous proposaient, si on est fatigué, de monter sur les camions. Parce que le camp n'est pas à l'endroit où le train s'est arrêté. Et pour y aller dans le camp, ça sera à travers champ et ça sera dur. Moi, j'entends ça. « Papa, Gilbert, prenez le camion !» Eh bien, je me retourne pour leur faire un petit bisou, pour leur dire à tout à l'heure, « Ces messieurs, sans arrêt, n'ayez pas peur, vous allez tous vous retrouver. » Et maintenant, nous, on part à pied, et c'est vrai que c'était très dur, à travers champs. On arrive à proximité du camp, une odeur, de la fumée, des cheminées. On rentre dans le camp, à perte de vue, des baraques. Et ce camp de travail, ce qui me semble bizarre, c'est que ce camp de travail est entouré de barbelés. Je ne voyais pas des barbelés dans un camp de travail, mais je n'ai jamais été dans un camp de travail. Mais ce qui me semble bizarre, c'est que ces barbelés sont entrecoupés de miradors. Alors maintenant, vous savez, on n'est pas arrêté, puis on regarde. Non, c'est tout en marchant qu'on voit tout ça. Et maintenant, on nous dirige vers un bâtiment comme ceci. Et en allant vers ce bâtiment, on croise des personnes bizarres. Elles nous regardent d'une façon étrange. Elles sont mal habillées. Et maintenant, on va rentrer dans le camp. On va rentrer dans ce bâtiment. Ce bâtiment est divisé. Il y a plein de petites salles. On arrive, on est devant ces tables, on va se mettre en rang et les ordres arrivent. Déshabillez-vous. On est complètement nu. Je suis nu devant des femmes que je ne connais pas. Je suis malade de honte. Vous vous rappelez, je cache mes seins, je cache mon sexe. L'autre, à côté, elle prend mon bras. Et maintenant, je suis complètement nue devant ces dames. Et elle me met un numéro. Mon numéro, c'est 78 599. Vous vous rappelez, les gens qui sont montés sur les camions pour ne pas être fatigués, normalement, on doit les retrouver dans le camp. Quand est-ce qu'on va les voir? Elles nous apprennent que cette fumée, c'est le corps de tous ceux qui étaient montés sur les camions. On les a assassinés et on les a brûlés dans les fours crématoires. Personne n'a cru. Comment? On a de la famille, ils sont vivants, ils sont montés sur les camions parce qu'ils étaient fatigués, parce qu'on leur a dit que ça serait plus agréable. C'est pas vrai, papa Gilbert n'était pas malade. C'est moi qui leur ai dit de monter sur les camions pour pas qu'ils soient fatigués. On ne l'a pas cru tout de suite, mais le soir, on savait. Les emmenaient à l'intérieur du camp. Ce coin s'appelait aussi le Canada. Et celle qui travaillait au Canada était chargée d'ouvrir les bagages et les trier. Tout ce qui était bien partait en Allemagne. Et ce qui était moins bien, pour les Juifs, ça, c'était largement suffisant. Alors, ça y est, maintenant, on est habillés. On va nous emmener aux toilettes. On arrive dans une baraque. Des personnes assises côte à côte, dos à dos, en train de faire leurs besoins en même temps. Maintenant, on est dans une baraque. La personne qui nous reçoit, elle se nomme la Blokova. La Blokova, c'est celle qui est responsable de nous dans la baraque. Alors, elle commence à nous faire tout un speech. Vous êtes ici pour mourir. Vous ne sortirez jamais vivant ici. Donc, j'ai moi qui ai le droit de faire avec vous. Si vous n'obéissez pas, je peux même vous tuer. On ne me dira rien, puisque de toute façon, vous êtes ici pour mourir. Il faut m'obéir. Si vous m'obéissez, ça n'ira pas trop mal. Et maintenant, elle va nous diriger vers une espèce des niches. Ça s'appelle des koyas. Et là, dans les niches, on va être 6 par niche. Alors, il y a 3 niveaux, elle nous met 18. Mais quand on voit comment ce qu'il y a dans les niches, je peux vous garantir que ce n'est pas agréable. et elle nous fait coucher et elle nous explique qu'on ne pourra pas être six côte à côte, il y en aura trois dans le fond et il y en aura trois au bord. On est dans un camp de Birkenau qui est le camp de quarantaine. Quand vous avez terminé le camp de quarantaine, alors vous allez dans une autre partie du camp et là, vous allez y rester jusqu'à ce que mort s'en suive, hein, normalement. Des commandos, c'est un groupe de travail. Je connaissais le travail. J'avais une amie, elle travaillait aux pommes de terre. Et puis, moi, je travaillais la terre. Et puis, il y en a qui travaillaient... voilà, pour moi, il y avait trois commandos. Et bien, en réalité, il y en avait plein que je ne connaissais pas. Mon commando, ça s'appelle le Hossen Commando. J'étais là pour entretenir le camp. C'est-à-dire, on a creusé des fossés, parce que les fossés, ça éliminait l'humidité dans la terre. On a fait des routes, parce que sinon, c'était à travers champs. On a installé des rails pour que le train arrive maintenant au pied des chambres à gaz. Des gros travaux comme ça, on a fait. Jusqu'en novembre 44, on n'a pas été travaillé, une partie n'a pas été travaillée, ça aurait pu être grave. Eh bien, cette partie qui n'a pas été travaillée va partir en train pour un nouveau camp qui s'appelle Bergen-Belsen. Bergen-Belsen, ce n'est plus un camp de mort. Il n'y a plus de chambre à gaz, mais vous allez mourir quand même. Parce qu'il y a une épidémie de typhus qui a tué beaucoup de déportés. On y est arrivé en novembre. On a quitté Bergen-Belsen en février 1945. Des dirigeants d'usine viennent dans notre usine pour chercher dans notre camp de Bergen-Belsen pour avoir des employés parce que tous ceux qui étaient capables de tenir un fusil partaient à la guerre, mais il fallait aussi fabriquer des armes. Ils allaient dans les usines pour voir dans les camps pour voir ceux qui étaient capables de travailler pour eux. Et j'ai eu la chance d'être désignée pour aller travailler en usine. Alors, on était mieux nourris, on était mieux logés, on était mieux habillés. Là, on a eu le droit aux robes rayées, comme les non-juives, les résistants portaient. On a travaillé dans cette usine jusqu'en avril 1945. En avril 1945, l'équipe de jour partait au travail, l'équipe de nuit en revenait. Eh bien, les deux équipes sont bloquées. Fini l'usine, les alliés approchent, ils nous ont emmenés. On est partis en train et pour certaines, ça a été le train de la mort. Dans ces wagons, pas un seau avec de l'eau, les poils avaient repoussé, les cheveux avaient repoussé, eh bien, les poux nous avaient envahis, on était dans la crasse, dans la saleté. Le train a roulé, je ne sais pas combien de temps exactement, 8 jours, 10 jours, et le train s'est arrêté. On s'est retrouvés dans un autre camp, des personnes nous accueillent, on ne nous injurie pas, on ne nous frappe pas, et même les gens nous regardent avec des yeux brillants de larmes. Deux femmes me prennent par le bras gentiment, m'amènent dans un bâtiment, on va monter un étage, deux étages. J'apprends que ce camp est Theresienstadt, en Tchécoslovaquie, près de Prague, et que ce camp était avant une caserne de soldats. Mais là, il y a des lits avec des draps. J'ai toujours cru qu'à Theresienstadt, les Juifs qui étaient arrêtés avaient des draps dans leur lit. Je suis sortie, j'apprends qu'il y a un camion qui doit rapatrier les Françaises. Je suis dans ce camion et puis maintenant, c'est le matin, j'arrive à Paris. J'avais prévenu mes sœurs, elles ne sont pas là. J'arrive à la maison, je sonne, c'est ma mère qui ouvre. Je suis dans ses bras, mais par contre, je suis très fatiguée parce que j'ai marché. Et qu'est-ce qu'elle me dit ? On va lui donner des nouvelles de papa et de Gilbert. Mais maman, t'en auras pas. Papa et Gilbert ont été brûlés, on a gazé, brûlé, et on les a mis, ils sont partis en fumée. Ma mère, ça a dû, elle savait peut-être même pas ce que ça voulait dire, mais ça a dû lui faire un choc. Et j'ai vécu avec ma mère pendant 8 ans. Et pendant 8 ans, jamais ma mère ne m'a fait un reproche en me disant « Tu as été dur quand tu es arrivé, tu m'as annoncé que ton père était, et mon fils étaient décédés. J'aurais pu être un choc cardiaque. » Mais jamais elle ne m'a fait de reproche. Et moi, jamais je ne me suis excusée. Moi, au contraire, je lui avais rendu service. Au moins maintenant, elle n'a pas guetté tous les coups de sonnette. Elle sait que ce n'est pas eux. Voilà. Et puis, la vie a repris petit à petit. Il a fallu quand même que j'attende un petit peu d'être en meilleure santé. Et puis voilà, j'ai repris la vie. Et depuis cette période-là où je suis rentrée, pour moi, je ne voulais plus parler de ça.
Ginette Kolinka nous a accordé une interview à la fin de son intervention. Elle nous parle de sa vision de l'antisémitisme.
Écoutez, je vais peut-être me faire huer. Moi, je ne m'en rends pas compte. Moi, je n'ai pas Internet. Donc, je n'écoute pas ce qui peut se dire sur Internet. Moi, je sais que autour de moi, je choisis pas mes amis. Je les prends juifs ou pas juifs et tout. Je ne le sens pas, l'antisémitisme. Alors, est-ce qu'il y est ? Est-ce que c'est moi qui ai tort ? Ou est-ce que ce sont ceux qui s'imaginent s'ils entendent de quelqu'un qui les critique ? Ils ne pensent pas que c'est qu'on les critique eux-mêmes parce qu'ils sont eux, ils pensent qu'on les critique parce qu'ils sont juifs. Moi, si on me dit « on m'aime pas », je dis pas que c'est parce que je suis juive. On m'aime pas parce que c'est moi. Je pense que les minorités, on a tendance à prendre tout du mauvais côté, alors que quelquefois, il n'en est pas du tout question de la personne qui est en face de vous. Elle vous dit quelque chose parce qu'elle le pense, mais pas spécialement parce que vous êtes ou juive ou musulmane ou ci ou ça.
Quand il s'agit de parler de foi, Ginette Kolinka est plutôt franche.
Ne me parlez pas de ça. Je laisse à ceux qui sont croyants le droit de croire ce qu'ils veulent. Et moi, je ne suis pas croyante. Et j'ai le droit aussi. Et celui qui est croyant, bah peut-être qu'il supporte mieux les atrocités de la vie en pensant que c'est Dieu qui l'a voulu. Au moins, il partage peut-être. Mais moi, j'estime que s'il y avait quelqu'un qui dirigeait nos vies, eh bien, des pauvres gosses. Mon frère n'a jamais rien fait à personne. On l'a assassiné. Mon père n'a jamais été méchant avec personne. On l'a assassiné. Ma famille, une bonne partie de ma famille ont été éliminées. Ils n'ont rien fait. Ils étaient juifs, c'est tout.
Ginette Kolinka ne parle pas de travail de mémoire.
Pas un travail de mémoire. C'est parce que c'était dans mon cerveau. Je ne sais pas comment expliquer. Quand ce jeune homme est venu chez moi pour me faire parler, sincèrement, je ne pensais pas pouvoir lui dire un seul mot sur le camp. Il a su trouver la façon de me faire sortir tout ça. En fin de compte, on a un cerveau qui est tapissé de souvenirs qu'on ignore. Et le jour où vous lui demandez de les sortir, on est étonné, mais ils sont là. En tous les cas, je sais que personnellement, d'aller dans les établissements scolaires comme ça, je pense que parmi tous ces jeunes qui m'ont écouté, eh ben, y en a une poignée qui aura réfléchi et peut-être que ça lui fera peut-être même changer d'idée. Et voilà. Mais je ne parle pas non plus en espérant que ça va changer le monde.
C'était la captation de son de la conférence de Ginette Kolinka, 97 ans, qui nous raconte son expérience. Elle était au lycée Camille Schneider de Molsheim sur l'initiative de l'association Regard d'enfants.